Bonjour, c'est Carole en Dordogne, à pied du Pluvier. Alors, le samedi 14 février, un rallye automobile a lieu en Dordogne. Je ne sais pas si c'est parce que M. Fillon aime les automobiles que tout est permis à ces sportifs nantis. En tout cas, ce jour-là, de 9h à 21h30, nous n'avons pas le droit de sortir de nos maisons, ni à pied, ni en voiture. Les personnes âgées n'auront pas le droit à leur repas à domicile et à leur aide ménagère. Et c'est vrai, hein, c'est ça la démocratie. Au revoir.
Oui, salut à tous les AMG, et en particulier à ceux de Montreuil et alentour. Le Café Repère vous attend ce mercredi 11 à 19h à la Pizzeria Bar, au 14 rue du Capitaine Dreyfus. Qu'on se le dise. Merci, au revoir.
Oui, bonjour. Voilà, je voudrais réagir contre les propos, bien évidemment, de l'évêque anglais, ses propos négationnistes. Non seulement il nie la Shoah, mais en plus, il a rajouté qu'il fallait lui apporter des preuves. Alors moi, je pose la question à cet homme, et au-delà de cet homme, apportez-nous la preuve que Dieu existe. Ah, comment il fait là ?
Bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Bonjour à tous les AMG du pays d'Aix. Le repère d'Aix-en-Provence vous donne rendez-vous demain mardi 10 février à 19h30 au café Le Festival en bas du cours Mirabeau. Le débat portera sur le conflit israélo-palestinien et sera animé par Pierre Stamboul, membre du Bureau national de l'Union juive française pour la paix. Merci beaucoup.
La Guadeloupe vit au rythme d'un mouvement historique de protestation sociale depuis le 20 janvier. Au terme du cinquième jour, le préfet a reçu le collectif « Vie en âge contre profitation » LKP en présence des présidents des collectivités territoriales et du patronat, dont le MEDEF. Durant trois jours de négociations télévisées et surtout pédagogiques, le préfet n'a eu de cesse de promettre des réponses validées par les services de l'État. Comme réponse, le 28 janvier, il provoque un clash en quittant la table de travail avec ses chefs de service sous les yeux ébahis des téléspectateurs. Vendredi 30 janvier, 65 000 travailleurs ont manifesté leur désarroi dans les rues, soit 13% de la population. Monsieur Yves Jégo, secrétaire d'État en charge des Outre-mer, arrivé en Guadeloupe dans la nuit du 31 à Catimini, a installé son staff et annoncé sa détermination à répondre aux revendications. Après de multiples consultations et 15 jours après le début du mouvement, les négociations quadripartites ont débuté le jeudi 5 février avec de timides avancées. Le point de blocage a porté sur une augmentation de 200 euros pour les bas salaires. Malgré une promesse de l'effacement de la dette fiscale des entreprises, malgré les exonérations des charges patronales, le patronat déclenche une grève dans la grève pour exiger un engagement fort de l'État. Après un marathon de plus de 20 heures, les partis ont convenu de se retrouver ce dimanche 8 février à 17h. Alors que le LKP se dirige vers la préfecture pour la suite des débats, le porte-parole reçoit un appel téléphonique du préfet, 45 minutes avant l'heure du rendez-vous, lui annonçant la suspension des débats en raison du départ de M. Yves Jégo pour Paris. Certains médias parisiens ont annoncé depuis la semaine dernière que tout était réglé ici. Seulement ce soir, à 17h, la Guadeloupe est consternée, apprend que le secrétaire d'État s'en est allé, en catimini, comme il est arrivé. Rien n'est signé. Merci, à bientôt. Bon courage à Daniel et aux AMG.
Et bon courage à la Guadeloupe, on reçoit beaucoup de messages. Certains sont pas très sympas, qui disent « Oui, vous devriez être en reportage à la Guadeloupe pour raconter ce qui s'y passe ». Ben oui, mais on peut pas être partout. À la fois désolé et très intéressé et consterné par ce qui se passe en Guadeloupe. On essaiera de redonner des échos demain de tout ça. Mais enfin, voilà Voilà un message dont je vous remercie, tout comme je remercie les AMG qui nous adressent de plus en plus de messages, et aussi bien que parfois on est un petit peu embêté parce qu'on n'a pas la place pour les passer tout simplement. J'espère que vous le comprenez. Et puis je veux remercier tous ceux qui nous ont reçus au cours de ce week-end, que ce soit à Sevran dans le 9-3, que ce soit à Nice ou à Montauroux pour leur gentillesse, accueil, etc. Dans les débats qui ont suivi la projection du film Chomsky et compagnie. Aujourd'hui, on part dans un reportage très, très particulier, un peu différent de ce qu'on fait, de ce qu'on vous présente d'habitude dans la base, si j'y suis, au sujet du lobby pro-israélien. Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine. C'est un livre qui est sorti en France en 2007, publié aux États-Unis en 2006, et qui a fait grand bruit et qui est un des rares livres probablement qui a changé, non pas le monde, mais en tous les cas notre regard sur le monde et le regard des États-Unis sur leur monde et sur le monde. Deux auteurs, John Mersheimer et Stephen Walt, deux chercheurs tout à fait classiques, honorables, conservateurs, mainstream, comme ils le disent eux-mêmes, se sont lancés dans la description de ce lobby pro-israélien qui était jusque-là quasiment un tabou, un peu comme chez nous en France. Je tiens tout de suite à dire qu'il ne faut pas confondre lobby juif et lobby pro-israélien. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de lobby juif. Par contre, il y a un lobby pro-israélien. Et c'est là-dessus que va se... dans ce lobby que va se passer notre voyage. On pourrait dire aussi tout simplement dans le livre de Mersheimer et Stephen Walt, qui a eu des conséquences au point qu'un autre lobby est en train de se développer aux États-Unis qui conteste ce tout-puissant lobby existant. On parlera des lobbies, du rôle et du poids des lobbies aux États-Unis, du poids et du rôle de ce lobby dans la politique étrangère des États-Unis en direction d'Israël, et comment, avec ces auteurs, on réfléchira sur le fait qu'il est bien possible, et c'est leur thèse en tout cas, que ce lobby soit à la fois mauvais et nuisible à la politique des États-Unis, tout comme à celle d'Israël. Vous avez bien compris que les élections demain en Israël inspirent la programmation de ce sujet, mais c'est aussi une façon plus vaste d'essayer de réfléchir et de comprendre ce sujet et ce problème et parfois ce drame qui nous hante et auquel très souvent beaucoup de choses nous ramènent. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Gérard, chômeur, frondeur de l'association Apnée. Je voulais parler à toutes les personnes privées d'emploi qui ont du mal à joindre les ANPE depuis la mise en place du 39-49. Nous mettons en place sur notre site des listes des numéros internes des agences de façon à ce que les personnes privées d'emploi puissent à nouveau avoir un véritable être humain directement en ligne. Donc il suffit de taper sur Google une alternative au 39-49. Je répète, une alternative au 39-49. Bonne journée.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. Voilà, je vous appelle pour annoncer donc l'ouverture d'un repère là-bas si j'y suis, à Saint-Péret. C'est à 5 minutes de Valence, côté Ardèche. Hervé, le patron de l'hôtel-restaurant Badet, nous accueille. La première rencontre aura lieu ce soir, lundi 9 février, à partir de 20h. Venez nombreux à l'hôtel Badet aux 2 rues de la République à partir de 20h. Ce soir, on vous attendra. C'était Cyril d'Ardèche, à bientôt.
Le 8 février 1962, 9 travailleurs syndiqués à la CGT, dont 8 étaient membres du Parti communiste, étaient tués au métro Charonne lors d'une manifestation contre les actions terroristes de l'OAS et pour la paix en Algérie. C'est Régis de Nîmes.
Amis du Nord, bonjour. Notre réunion ce soir à 20h dans le Vieux-Lille au café L'Imaginaire pour discuter, échanger et surtout ne pas s'endormir après l'action forte du 29 janvier dernier. À ce soir, venez nombreux.
Donc c'est Annick de Tours. Une information, interpellé comme un malfaiteur par 4 policiers, Louni Sibadioun comparaîtra devant le tribunal du 18e arrondissement le 18-2. Le crime de cet homme, c'est avoir vendu l'humanité dimanche comme à son habitude sur le marché de son coin. La pression sur la liberté d'expression s'aggrave, sommes-nous encore en démocratie? Une pétition sur le net et une grande soirée de solidarité le 10 au 48 rue du M à Paris 18e. Voilà, bon courage à tous et encore merci. Au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG. Nous vous annonçons l'ouverture d'un café repère à Saint-Lô dans la Manche. Les rencontres se feront tous les lundis de 17h30 à 19h à partir du lundi 9. Alors ces rencontres auront lieu au Santa Cruz, rue Houssin du Manoir, à Saint-Lô. Venez nombreux, on vous attend.
Salut Daniel, bonjour de la Réunion à tous les AMG et merci pour tes émissions. Le repère de Saint-Denis a changé d'adresse et changé de jour. Maintenant c'est au Mezza Café, 7 rue Rontenay, dans le centre-ville de Saint-Denis, et c'est le mardi. D'ailleurs, ce mardi 10 février, nous abordons le thème de la culture à travers ce titre. Sarkozy, président de la culture. Salut.
It is wonderful being here with all of you among
sénatrice Hillary Clinton, 4 juin 2008.
So many friends.
C'est merveilleux d'être ici avec vous parmi tant d'amis.
And
et
I feel like this is a giant family reunion.
J'ai l'impression d'être dans une immense réunion de famille.
The largest APAC gathering in history, and I feel like I am among family. And thank you for the warm welcome.
Le plus grand rassemblement de l'APAC dans l'histoire, et je me sens comme à la maison. Et merci pour l'accueil chaleureux.
I'm very happy to be with you, and it's always a pleasure.
Sénateur John McCain, 2 juin 2008.
To speak before this magnificent and wonderful and very important organization.
Je suis très heureux d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de parler devant une organisation aussi merveilleuse et fantastique et importante.
Just as America is deeply fortunate to have a close friend in Israel.
De la même façon que les États-Unis ont la chance d'avoir un aussi bon ami qu'Israël.
Israel is privileged to have a supporter in APAC.
Israël a le privilège d'avoir le soutien inconditionnel d'APAC.
And I know that when I visit APAC,
et je sais que quand je viens à APAC,
I'm among friends.
Je suis chez des amis,
good friends.
De bons amis.
Sénateur Barack Obama, 4 juin 2008.
Friends who share my strong commitment to make sure that the bond between the United States and Israel is unbreakable today.
Des amis engagés à faire en sorte que le lien entre les États-Unis et Israël ne puisse être rompu, ni aujourd'hui,
unbreakable tomorrow,
ni demain,
unbreakable forever,
ni jamais.
Est-ce qu'il serait possible aux États-Unis qu'un candidat soit élu s'il manifestait son soutien à la cause palestinienne dans n'importe quel poste aux États-Unis?
History says no.
L'histoire dit que non.
One or two have and they lost.
Il y en a un ou deux qui ont essayé, ils ont tous perdu.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base et j'y suis avec Guy Van Til. Le lobby pro-israélien voyage autour d'un tabou.
Flight number 2, arriving from New York.
Your love and support for the state of Israel ensures that the alliance between Israel and the United States is never taken for granted.
If you really want to make a meaningful difference, APAC is the place to be.
There is much work to be done, and only us to do it.
Oh.
My name is Stephen Walt. I'm a professor of international affairs at Harvard University.
Je suis professeur de politique internationale à l'université de Harvard, ici à Boston.
My co-author of the book was John Mearsheimer, who is also a professor of political science at the University of Chicago.
Et mon co-auteur, c'est John Mearsheimer, qui lui est professeur de sciences politiques à l'université de Chicago.
Alors donc, vous êtes les auteurs du lobby pro-israélien, on va parler de ce livre, mais avant de voir de quoi vous parlez, on va essayer de savoir qui parle. Est-ce que vous pouvez faire votre portrait presque idéologique ou politique? Est-ce que vous vous situez plutôt comme des conservateurs, comme des démocrates? Quels sont vos présupposés idéologiques? C'est intéressant de le savoir, pour savoir qui parle.
Let me say several things. Both Professor Mearsheimer and I are, I would say, mainstream centrist intellectuals and political figures.
Mearsheimer et moi, on est tous les deux des gens tout à fait mainstream, c'est-à-dire dans le courant, dans l'idéologie dominante, centriste.
Yeah. I have voted for Republicans and Democrats at different times in my life.
J'ai voté parfois pour les Républicains, mais j'ai aussi voté à différentes élections pour les Démocrates.
We are not radicals of either the left or the right.
On n'est pas des extrémistes, des radicaux de gauche ni de droite.
Vous nous rassurez.
which is why our book got so much attention.
Et c'est pour ça que notre book a attiré tellement d'attention.
Because here were two very respectable people from two very distinguished universities.
Parce qu'on était deux gens tout à fait respectables, de deux universités particulièrement fameuses.
Saying something that nobody else had been willing to say, or very few people had been willing to say.
Et qu'on disait depuis cette position-là des choses que très peu de gens, si ce n'est personne, n'avaient osé dire jusqu'auparavant.
C'est comme l'éléphant qui est au milieu du salon et dont personne ne parle. Cet éléphant, on peut l'appeler EPAC, American Israeli Public Affairs Committee. EPAC. Vous avez entendu les trois candidats à la présidence des États-Unis, McCain, Hillary Clinton et Barack Obama, faire allégeance, faire discours chaleureux de soutien et de promesses à l'essentiel, au lobby le plus puissant concernant les affaires israéliennes, qui est donc l'EPAC. Un éléphant au milieu du salon dont personne ne parle, jusqu'au jour où ces deux universitaires, John Mearsheimer et Stephen Walt, l'un Mearsheimer professeur de sciences politiques à l'université de Chicago et Walt professeur de relations internationales à Kennedy School of Government d'Harvard, et se sont décidés à regarder un peu comment fonctionne, qu'est-ce que c'est que ce lobby pro-israélien. J'insiste tout de suite et je le répéterai sans cesse, il ne s'agit en aucun cas, et les auteurs ont pris évidemment la précaution tout de suite dès l'entrée de leur texte de bien préciser qu'il ne s'agit pas du lobby juif qui n'existe pas, mais du lobby pro-israélien qui existe bel et bien, qui existe parmi tous les autres lobbies aux États-Unis. Vous le savez, la démocratie américaine fonctionne ainsi. À Washington, D.C., il y a des centaines et des centaines de lobbies et des milliers de lobbyistes qui représentent des intérêts extrêmement divers d'entreprises, de groupes ethniques, de religions, de syndicats. Tout le monde peut se faire représenter à travers ces lobbies qui ont pour rôle et qui ont pour jeu, si on peut dire, d'intervenir, de faire pression sur les élus, sur les congressistes, les sénateurs et les représentants, bref, sur le pouvoir, par des moyens qui sont transparents. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas en principe d'opacité, mais il s'agit pour chacun de ces groupes de faire pression pour obtenir évidemment que les lois aillent dans le sens des intérêts de ces groupes. C'est le système des lobbies américains. Évidemment, pour nous, lobby, c'est très péjoratif, c'est une connotation négative, même si on avait montré comment ces lobbies opèrent bel et bien et avec quelle force au niveau de l'Union européenne, à Bruxelles, et commencent à opérer avec beaucoup de force aussi sur la scène politique française, même si il faut contourner et se déguiser précisément à cause de cette connotation péjorative. Mais aux États-Unis, c'est tout à fait ouvert et tout à fait bien, même si Barack Obama a bien fait savoir que l'agenda des États-Unis ne serait pas réglé par les lobbies. Je ne serais pas influencé par les lobbyistes, a-t-il dit et martelé. On verra s'il arrive à résister à de telles pressions. Il faut rappeler que dès qu'ils ne sont plus en fonction, les congressistes deviennent des lobbyistes avec évidemment les carnets d'adresses qu'ils se sont faits et la connaissance de l'intérieur qu'ils peuvent avoir de la façon dont s'exerce le pouvoir et s'élaborent les lois. Le lobby qui nous intéresse, le lobby pro-israélien, essentiellement c'est les PAC. On verra bien qu'il y en a d'autres qui sont autour. Les PAC, c'est 100 000 membres à travers les États-Unis, c'est 165 salariés, c'est un budget annuel de 45 millions de dollars. On ira avec Guy, on ira au siège social de les PAC à Washington DC. Les PAC a des bureaux dans la plupart des États des États-Unis. 70 associations sont affiliées à ce lobby et ils revendiquent 4 millions d'électeurs dans les États clés des États-Unis. Donc c'est dire, c'est quelques indications sur la puissance de ce lobby. Ce lobby fait pression et, un peu comme chez nous, menace ceux qui s'approchent d'un peu trop près et sont très critiques. Menacent de quelle façon? Eh bien, comme ici, menacent d'antisémitisme, de procès en antisémitisme, ou je ne sais pas si on emploie le mot cosmopolite aux États-Unis, mais tous les moyens sont bons pour écarter les curieux et les stigmatiser. Or, ces deux professeurs, Mersheimer et Walt, eh bien, ils ont tenu droit dans leurs bottes. Ils ont fait ils ont travaillé à ce livre qui est une longue recherche extraordinairement bien documentée, extraordinairement bien articulée, qui a, je l'ai dit en commençant, eu un grand retentissement. Ça leur a valu des critiques et très nombreuses. Et évidemment, la critique, le procès en antisémitisme, mais ils ont tenu bon et finalement, les choses se sont inversées, on peut dire, en leur faveur. Ils ont réussi à calmer le jeu, à ce que le débat s'ouvre beaucoup plus, à faire prendre conscience de beaucoup de choses aux médias américains, à une série d'intellectuels américains, au point aujourd'hui qu'ils sont à la base, où ils ont inspiré un nouveau lobby qui s'appelle J Street et qui est en train de se développer avec des visées beaucoup plus pacifiste, on va dire, et qui entend, celui-là, œuvrer pour la paix au Proche-Orient. Voilà quelques éléments. On est ensemble jusqu'à 16h. C'est là-bas, si j'y suis, le lobby pro-israélien voyage autour d'un tabou.
הוא מסתכל בי בחשד, הוא הופך את הדרכון שלי מצד אל צד. אני חושבת לנמק זה מימין לשמאל, אבל הפחד משתק ולא יוצא לי קול. הוא מסתכל בתצלום, הוא מסתכל לי בעיניים, למה הצטלמתי בלי המשקפיים? ולמה הסתפרתי לפני הנסיעה? הוא לא יכיר אותי, פתאום אני כולי מזיעה. הוא לא סובל אותי, הוא מסתכל בי בחשד, הוא הופך את הדרכון שלי מצד אל צד. עוד רגע הוא ישלח אותי לאיזו חקירה, מי יודע עד מתי הוא יחזיק אותי שם? הרי בכל דקה בן אדם נעלם. לא נולדתי אתמול, מכירה את העולם, קראתי ספרים, ראיתי סרטים, לא צריך סיבות, אנשים נעלמים. הוא לא סובל אותי, הוא מסתכל בי בחשד, הוא הופך את הדרכון שלי מצד אל צד. הוא שואל אותי משהו, אני לא מבינה, חכה לכמה זמן הגעתי, one week אני עונה. בטח שונא ישראל היא מלמה לכן הוא מתעלל בי כבר שעה תמימה לכולם הדרגות נותן ביטחון ורק שלי מטיל על האימה שני ההודים שעומדים מאחוריי בדממה מחייכים אליי עכשיו בסבלנות והבנה ועם הקורבן היא עם השרי הלבן לא מתביישים במה שהם בכל מקום בעולם תירירו עם השרי הלבן לא מתביישים במה שהם בכל מקום בעולם רק אני רוצה להיות עוד יותר קטנה להיות משום מקום, להיות משום מדינה כן אני רוצה להיות עוד יותר קטנה שלא יראו אותי בכלל שלא יגידו מילה ואני רואה ומכין את החותמת כאילו אדישה אבל בעצם לא נושמת הוא מעץ בי לאט מבט אחרון הוא מניף את היד הוא מחתים את הדרכון טיפלתי בידיים רועדות אני לוקחת הדרכון ועכשיו לא מזוודות מנפנפת להוד עם שלום ביי ביי עכשיו אתם בתור בהצלחה ידידיי
Our primary reason for writing the book was that we felt the Israel lobby was pushing policies that were harmful for the United States. And we also felt that these policies were not good for Israel as well.
Non, la première raison, c'était vraiment parce qu'on a vu que ce lobby pro-Israël militait pour une politique qui était néfaste aux États-Unis et qui n'amenait aucun bien non plus en Israël.
Ça, c'est votre hypothèse de départ.
That's correct. We wanted to write the book because there was a taboo subject.
Est-ce qu'il y avait un tabou? C'est pour ça qu'on voulait faire ce livre.
That no one in the United States was willing to talk about openly, and we felt this was a very unhealthy situation.
Parce que personne aux États-Unis ne voulait parler ouvertement de cette situation, et c'était quelque chose qu'on trouvait assez malsain.
Many people understood that pro-Israel groups or groups in the lobby like AIPAC were very powerful politically and had a lot of influence on American policy in the Middle East.
Il y a beaucoup de gens qui voyaient que ces groupes comme l'AIPAC, qui est des groupes d'intérêt, étaient très puissants dans l'orientation de la politique américaine au Proche-Orient.
But most people in the mainstream foreign policy circles weren't willing to say this out loud. Certainly weren't willing to say it in public or in writing.
Mais la plupart des chercheurs moyens n'allaient pas écrire ni s'exprimer publiquement, n'osaient pas en tout cas le faire à ce sujet.
N'osaient pas et ils ont osé. Mersheimer et Walt, ces deux chercheurs, donc ont osé s'interroger sur, par exemple, le fait qu'entre 1972 et 2006, Washington a mis son veto à 42 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, résolution critiquant la politique israélienne. À chaque fois, Washington a mis son veto. Chaque année, Israël continue de recevoir 3 à 4 milliards de dollars d'aide américaine, soit un sixième de l'aide étrangère des États-Unis. Pourquoi ces faveurs? Pourquoi ces soutiens financiers, soutiens militaires, soutiens technologiques, soutiens diplomatiques? Ils se sont simplement posé la question. Encore une fois, ils le disent d'entrée de jeu dans leur livre, ils sont pro-israéliens, donc on ne peut pas leur dire qu'ils mettent en cause l'existence d'Israël, c'est absolument pas leur but, ils posent simplement des questions sur la puissance de ce lobby. Lobby qui est l'un des plus puissants aux États-Unis. Il y a parmi les plus influents la NRA, National Rifle Association of America, c'est-à-dire la défense des armes à feu, de la possibilité pour chacun de porter son arme à feu. Très près, dans les plus gros lobbies aux États-Unis, l'American Association of Retired Persons, c'est-à-dire les retraités, mais tout de suite, tout en tête, il y a l'AIPAC, donc American Israel Public Affairs Committee. C'est donc la, c'est dire la puissance de ce lobby et comme il était important et intéressant que des chercheurs mainstream, plutôt conservateurs, absolument, ne mettant absolument pas en cause l'existence d'Israël, et mais s'interrogeant sur le rôle de ce lobby, s'engage dans ce travail. Eh bien, au pays de la liberté et de la liberté d'expression, où tout peut se dire, ça n'a pas été du gâteau. Donc vous vous êtes dit ensemble, là il y a un tabou, on va se mettre à travailler là-dessus, ou bien est-ce que ça a été une commande? Comment ça s'est fait? Quel a été le vrai point de départ?
We, like many Americans, began to pay very close attention to American Middle East policy after September 11th.
Comme beaucoup d'Américains, on s'est intéressé de très près à la politique au Proche-Orient américaine après le 11 septembre.
After Stephen September Walt. 11th, it was clear to us that one of the reasons the United States was in such trouble in the Middle East was our special relationship with Israel. And the main reason we had a special relationship with Israel was the political influence of the Israel lobby.
Une des choses qui sautait aux yeux après le 11 septembre, c'était que pourquoi les États-Unis étaient si mal vus dans cette région du monde et dans le processus dans le Proche-Orient, c'est parce qu'on avait cette relation très particulière avec l'État d'Israël. Et pourquoi on avait cette relation très particulière avec l'État d'Israël, c'est parce qu'on avait ces groupes de pression et ce lobby pro-israélien aux États-Unis.
We were eventually asked to write an article about the Israel lobby for a magazine, for the Atlantic Monthly.
C'est le Atlantic Monthly qui nous a commandé d'écrire un premier article sur le lobby pro-israélien aux États-Unis.
Et ça, c'était en 2002.
2002. And we completed our article in 2005, having shown them all of our preliminary drafts, which they had liked. But when we sent them the final version, they told us they were not going to publish it.
Donc on a fini en 2005, et au cours de route, on leur a envoyé tous nos travaux préparatoires, intermédiaires, mais quand on leur a envoyé la version finale, ils ont dit qu'ils refusaient de le publier.
Quelle était la raison de leur refus? Ils ont donné une raison à leur refus?
Not particularly, and they didn't give us the opportunity to rewrite it. In other words, if they didn't like the article, they could have said, these things have to change before we can publish it, but they didn't say that.
Ils n'ont pas donné de raison claire, et surtout, ils ne nous ont pas donné l'opportunité de réécrire, parce qu'ils auraient très bien pu dire, oui, bah, vous reprenez ça, vous reprenez ci. Non, c'était un non ferme et définitif.
I believe, although I cannot prove, that they simply got cold feet about publishing such a controversial article.
Moi, je crois, même si j'en ai pas la preuve, qu'ils ont tout simplement eu la pétoche de publier ce livre une fois qu'ils l'ont eu sous les yeux.
In fact, by the summer of 2005, we had given up on the project completely.
Tant et si bien qu'à l'été 2005, on avait abandonné toute idée de publier ce travail.
And then we eventually were put in touch with the editor of the London Review of Books, who got a copy of the manuscript and liked it, told us that she wanted to publish it, and it eventually was published in March 2006 in the London Review.
Et c'est la London Review of Books qui a eu une version de notre travail, qui a trouvé ça intéressant et qui a fait que ça a été publié en 2006.
London. London, c'est-à-dire en Angleterre.
Yeah, that's right. Once the article became so widely known, book publishers became very interested in having us do a longer book version.
C'est à partir du moment où l'article a été lu par énormément de gens que les éditeurs seront intéressés à faire une version plus longue.
And we wanted to do that because it allowed us the opportunity to lay out our case in more detail, to address criticisms that had been raised of the original article, and to present a much fuller depiction of the way in which the lobby worked and its impact on American policy.
Et nous, ça nous a intéressé parce que non seulement on pouvait travailler plus en détail, on pouvait aussi répondre à certaines des critiques qui nous avaient été faites et faire un portrait beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé de ce lobby pro-israélien.
Alors le livre a eu un très grand succès aux États-Unis et les textes publiés dans la London Review of Books ont fait l'objet de quantité de lectures et de téléchargements à travers le monde. Le livre a été traduit dans plus d'une vingtaine de langues et les deux auteurs n'ont pas cessé depuis de donner des conférences, des entretiens, des débats de toutes sortes, de répondre à des critiques, parfois fondées, parfois évidemment d'autres tout à fait infondées, comme celle de, évidemment, je le répète encore une fois, ils ont été taxés d'antisémitisme, par exemple l'Anti-Defamation League, dont nous en parlerons, par des chroniqueurs, que ce soit aux États-Unis à travers le New York Sun, le Wall Street Journal, le Washington Post ou même le Jerusalem Post. Mais s'il y a eu ces attaques, les unes tout à fait stupides et injustes, les autres fondées, après tout, parce que reprenant certains de leurs arguments ou discutant ou polémiquant avec eux, dans l'ensemble, et même la grande majorité des réactions, finalement, ont été intéressées, voire favorables, et y compris en Israël. En Europe, les deux chercheurs ont fait une tournée pour la promotion de leur livre, mais il y a un pays dans lequel ils ont été assez froidement accueillis. Voilà ce que nous dit par téléphone l'autre auteur, Monsieur Mersheimer. Et quel a été l'accueil en France quand vous êtes venu en France?
Before we went to Europe to publicize our book, Tony Judt told me that the only country we would have trouble promoting our book in would be France.
Avant d'aller faire notre tournée de promotionnelle en Europe, Tony Judt m'a dit que le seul pays où on aura des problèmes pour parler de notre livre, ce sera la France.
I did not believe him when he told me that.
Et je le croyais pas quand il m'a dit ça.
But it proved to be true.
Mais ça s'est avéré vrai.
It was the only country in Europe, indeed the only country in the world, where we had trouble publicizing the book.
C'est le seul pays en Europe et même le seul pays au monde où on a eu des problèmes à faire la promotion de notre livre.
Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir changé les choses avec votre livre?
The many conversations I have had with people over the past 3 years.
Avec toutes les conversations que j'ai eues au cours des 3 dernières années.
Indicate to me that we have had a significant effect on how many people think about the U.S.-Israeli relationship.
Et ça m'a apporté vraiment le sentiment que effectivement notre livre avait eu une influence sur la manière dont les gens pensent le problème israélo-palestinien.
I think we have also had some impact on how people talk about it in the mainstream media.
Et je pense qu'on a eu aussi un petit effet sur la manière dont les gens parlent de cette question-là dans les grands médias américains.
Which I think we have helped promote.
Et je pense qu'on a joué un rôle là-dedans.
But I do not think that we have had a meaningful impact on the policy process.
Mais je pense pas qu'on ait eu un impact sensible sur les décisions politiques.
Non, en juger par la façon dont se présentent les élections de demain en Israël, on ne peut pas dire que la démarche de nos deux auteurs semble avoir de l'influence sur la scène israélienne. Mais l'influence est importante quand même, et leur travail de chercheur a pris évidemment tout son sens en ce que voilà deux chercheurs, donc des intellectuels professionnels, qui osent affronter le terrorisme intellectuel, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit lorsqu'on dit le mot tabou, quand on prononce le mot tabou. Le terrorisme intellectuel, c'est une pratique qui, au moyen d'arguments et de procédés tels que des publications, des interventions dans les médias, vise à intimider pour empêcher la formulation d'idées gênantes, que les idées visées soient fausses, vraies ou discutables. On parle aussi de police de la pensée, et ça ne date pas d'hier, puisque Montaigne parlait déjà de tyrannie parlière, Renan de tyrannie spirituelle, etc., etc. On pourrait penser que le rôle, justement, de ces chercheurs et de ces intellos, c'est de lutter contre ce terrorisme intellectuel qui inhibe et qui intimide. Eh bien, Walt et Mersheimer l'ont fait. Mais, encore une fois, il est important de définir les mots, de donner tout leur sens aux mots, et le sens qu'ils donnent et que l'on donne aux mots, les mots n'ayant pas le même sens de chaque côté de l'Atlantique. Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine, on est avec Stephen Walt. Il y a évidemment un mot qui, pour la France, est très... Rien que ce mot fait tout de suite cabrer les esprits, c'est le mot lobby attaché, lié à pro-israélien. Alors, il faut simplement, puisque vous êtes prof, que vous nous rappeliez ce que sont les lobbies aux États-Unis.
In the United States, there are lots of different interest groups or lobbies that work openly in the political system.
Aux États-Unis, il y a plein de groupes d'intérêts ou de lobbies qui travaillent ouvertement dans le système politique.
So we would talk about the farm lobby.
Par exemple, le lobby des fermiers.
Or the gun lobby.
Le lobby des armes, NRA.
NRA. Or the Cuban lobby.
Ou même le lobby cubain.
And the Israel lobby is essentially like all of those other groups.
Et le lobby israélien est comme tous ces groupes, n'est pas différent de tous ces groupes.
Et ça n'a rien de secret, hein, ça n'a rien de secret les lobbies, au contraire, ça a pignon sur rue.
No, it's not a conspiracy, it's not a secret, it's right out there in the open.
C'est vraiment au grand jour.
The lobby is a loose coalition of many different groups and individuals.
Un lobby, c'est une coalition plus ou moins tenue de groupes très différents et d'individus.
Who all agree on one thing. They want the United States to have a special relationship with Israel and to give Israel nearly unconditional support.
Ils ont un point commun à tous, c'est ils veulent que les États-Unis aient une politique de soutien inconditionnel à Israël.
Also very important that it is not a Jewish lobby.
Et c'est très important de noter que c'est pas un lobby juif entre guillemets.
Some groups in the lobby are predominantly Jewish.
Il y a des groupes bien sûr qui se définissent comme juifs.
But many American Jews don't support those groups.
Mais beaucoup de juifs américains ne se reconnaissent pas et ne soutiennent pas ces groupes.
And there are other parts of the Israel lobby that aren't Jewish.
Et il y a aussi d'autres parties de ce lobby israélien qui ne sont même pas juifs.
So-called Christian Zionists.
C'est des sionistes chrétiens.
Ils sont très, très nombreux et très puissants.
Yes. But the point is, it's an Israel lobby, not a Jewish lobby.
Mais c'est ça qu'il faut bien voir et bien avoir en tête. C'est un lobby pro-Israël et ce n'est pas un lobby juif.
And what it's doing is a completely normal and legitimate form of political activity.
Et ce qu'il fait aux États-Unis est une manière de faire de la politique tout à fait normale et tout à fait légitime ici aux États-Unis.
It's probably in terms of influence, say, on the U.S. Congress, surveys of congressmen and their staff have indicated that it's one of the two or three most influential and powerful lobbies in Congress.
Oui, il y a des enquêtes qui ont été faites sur les membres du Congrès et leur personnel politique qui montrent que c'est un des deux ou trois groupes d'influence, groupes d'intérêt les plus puissants sur le Congrès des États-Unis.
Groupe d'influence puissant sur le Congrès des États-Unis. En effet, on le voit à travers les discours d'allégeance faits par les candidats à la présidence, mais c'est le cas aussi de tous les candidats au Congrès, que ce soit au Sénat, la Chambre des représentants, tous font allégeance à l'EPAC, que ce soit dans n'importe quel État des États-Unis. On nous l'a dit à plusieurs reprises, il serait absolument inconcevable d'avoir la moindre chance d'être élu si on affichait un quelconque soutien à la cause palestinienne aux États-Unis. C'est donc dire la force. Alors comment ça s'exerce? Comment ce lobby exerce? Eh bien, sa puissance, son influence, eh bien, comme tous les autres, en intervenant lors des élections, qu'elles soient sénatoriales ou présidentielles, par le financement des candidats. Mais pas un financement direct, bien entendu, mais un financement indirect par des systèmes très simples de pression. On va, par exemple, faire financer le candidat opposé, le candidat qui... l'autre candidat. Et ça va être par des conseils donnés à des bailleurs de fonds, à tous ceux qui veulent être sur, qui veulent soutenir. On les oriente. C'est pas directement le. Alors comment ça fonctionne? Voyons ça d'un peu plus près. On va développer tout ça dans les jours à venir, dans les heures à venir. Mais là, on va tout de suite, évidemment, c'est tout à fait normal, aller faire un tour à l'EPAC. Encore une fois, pas de complot. Rien à voir avec quelque chose qui serait tapis dans l'ombre, mais pignon sur rue, building, nous voilà au siège de l'EPAC, le nouveau siège de l'EPAC à Washington DC, où nous sommes reçus par le tout à fait jovial et cordial Josh Block. Et vous êtes monsieur Block?
Josh Block.
Josh Block, ça c'est un beau nom, hein? Josh Block. Ça claque. Voilà, nous voilà donc dans l'immeuble de l'EPAC à Washington. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation un peu rapide de l'EPAC?
APAC is America's pro-Israel lobby.
L'EPAC est le lobby pro-israélien des États-Unis.
It's an organization of hundreds of thousands of Americans.
Ça représente des centaines de milliers d'Américains.
Of all faiths and backgrounds.
De toutes les fois et de tous les parcours individuels.
Who care about a strong U.S.-Israel relationship.
Qui sont soucieux d'avoir des liens forts entre Israël et les États-Unis.
Voilà, tout simplement. Création, histoire, historique.
APAC was founded in the 1950s.
Ça a commencé dans les années 50.
It's a bipartisan organization that works with both Democrats and Republicans.
C'est-à-dire que c'est une association apolitique qui travaille et avec les démocrates et avec les républicains.
It has no political action committee. It makes no contributions of money of any kind to any candidate's campaign.
Elle ne finance aucun des candidats et aucune des campagnes des candidats américains.
Ni directement ni indirectement.
Zero money. APAC okay. does not contribute money to campaigns. It doesn't have an organization that does that. It is purely zero. An education organization and a lobby.
Zéro argent. On n'a pas de fonds. On n'a pas les structures juridiques qui permettent de financer des campagnes. On est juste une organisation de lobbying et d'éducation.
Sometimes I think in France or in Europe, lobbying is perceived as undue influence or born out of.
J'ai l'impression qu'en France et en Europe, souvent le lobby est vu comme une influence. Injuste.
Ah oui, oui. C'est péjoratif, le lobby.
Yeah, okay, so this is a very important thing to understand both about America and American society and American politics.
C'est quelque chose de très important de comprendre à propos de la politique américaine et de la société américaine, la manière dont on fait de la politique ici.
Mais alors, je note quand même que vous avez 100 000 membres, que vous avez 70 associations qui sont affiliées à l'EPAC, ce qui est quand même imposant, important, et que vous revendiquez 4 millions d'électeurs dans les États clés.
Well, the Jewish community in America is just 2% of the population.
La population juive aux États-Unis, c'est que 2% des électeurs.
The percentage of Americans who say that America's relationship with Israel is important to them is 75-80%.
Mais par contre, le pourcentage d'États-Unis d'Américains qui disent que la relation avec Israël est très particulière, c'est 75-80%.
I don't want to make your trip to the United States not worthwhile, and I don't want to.
Que vous ayez raté l'occasion de votre voyage aux États-Unis.
I don't want to pierce the bubble or the mystique of APAC's power.
Je veux pas non plus dégonfler toute la mystique qu'il y a sur le pouvoir supposé de l'APAC.
But when you stand up in the United States and you speak out and support a strong relationship between the United States and Israel, between the United States, it's a democracy that believes in freedom of speech and women's rights and gay rights and the rights of the minority, and you look at the Middle East, you only see one country that shares those values. And so when you lobby for America, it's like pushing on an open door.
Mais en même temps, c'est vrai que quand on est lobbyiste aux États-Unis, quand on se tient pour des causes de démocratie aux États-Unis, de droits des femmes, de droits des enfants, de droits des sociaux, et qu'on se bat pour toutes ces causes-là et qu'on regarde la situation au Moyen-Orient, il n'y a pas 36 États qui reportent ces valeurs-là. Et donc faire du militantisme pour encourager les liens particuliers avec Israël, c'est comme enfoncer une porte ouverte.
Alors très bien, enfoncer une porte ouverte, voilà une présentation par Josh Block de l'EPAC. Évidemment, la question qui nous brûle les lèvres, c'est de savoir comment le livre de Walt et Mearsheimer ont été reçus, ont été lus par l'EPAC même. Et là, il y a un petit changement de ton chez notre très sympathique et communicant Josh Block. Sur le lobby et sur l'EPAC, il y a deux analyses. Il y a ceux qui considèrent que c'est un lobby qui n'a pas une influence prépondérante. Et puis il y a ceux qui considèrent que le lobby est tout puissant. Et c'est le cas de Walt
et Mersheimer, parce que ça, on va en parler, qui sont les auteurs de ce livre intitulé « Le lobby pro-israélien ».
Listen, I've never responded directly to a particular book, like the one that you mentioned.
J'ai pas répondu particulièrement à un livre comme celui que vous mentionnez.
The reason is because there is pretty much every serious person who's been a member of the American foreign policy and political establishment has already said everything there's that could be said about the reality of American policy and the baselessness of that book.
C'est pour ça que j'ai pas parlé aussi de ce livre en particulier. Sans jamais le mentionner d'ailleurs, c'est parce qu'il y a eu des dizaines de chercheurs et de gens de la scène politique et intellectuelle américaine qui se sont déjà affairés à montrer l'absence de base, l'absence de fondement de tout ce qui est dans ce livre dont vous parlez.
If I wrote a book about Congress,
si je faisais un livre sur le Congrès,
and how Congress makes its decisions, but didn't
sur comment
interview
le Congrès prend
Congress,
ses décisions sans interviewer un seul membre du Congrès,
because I said I knew already what they would tell me.
Parce que je disais, mais je sais déjà ce qu'ils vont me dire à l'avance.
Would you think I was engaged in meaningful scholarship?
Est-ce que ça c'est un travail universitaire significatif?
You know, Strobe Talbott, David Gergen, Walter Russell Mead, Les Gelb. These are the eminence grace of American
voilà,
foreign policy and politics.
De tous les spécialistes éminents de la politique étrangère américaine.
And these are not polemicists. They're
ce
not cheerleaders for the pro-Israel movement in America.
Ce sont pas des pom-pom girls du mouvement pro-Israël. C'est même plutôt l'opposé.
But these are people who say quite forthrightly, America's interests are aligned with a strong relationship with Israel.
Mais c'est eux, ils disent d'une manière très directe, les intérêts américains sont alignés sur la relation particulière avec Israël.
Ouais. Mais je voudrais quand même qu'on reste un petit peu sur le livre, parce que vous le balayez comme ça d'un revers, mais il a eu quand même un grand écho, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde, et notamment en Europe. Et la thèse centrale de ce livre, c'est de dire que le lobby, c'est-à-dire les PAC, a un trop grand rôle, et un rôle qui est néfaste à la politique étrangère des États-Unis, et néfaste aussi en Israël. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez ou que vous rejetez complètement ?
Again, I'm not criticizing any particular book.
Moi, attention, je ne critique aucun livre en particulier.
What I'm suggesting is the argument that says America would be better off and the world would be better off if we just wrote Israel off.
Mais c'est l'argument de base de dire que les États-Unis et le monde se porteraient mieux si on se débarrassait d'Israël.
It's a false paradigm.
C'est un faux paradigme, c'est un faux.
And the quarrel that critics of the U.S.-Israel relationship have.
Et la querelle qu'ont eu les ennemis d'Israël et des États-Unis.
Organizations like AIPAC.
C'est pas contre des organisations comme AIPAC ou le Wall Street Journal ou le New York Times ou Brookings Institution qui est un think tank ou l'American Enterprise Institute comme étant tous membres d'une espèce de grande conspiration.
Their argument is with the 80% of America for whom this is a settled question.
C'est une question qui est réglée pour 80% des États-Unis, des Américains.
Right. Now, in Europe, there is I would suggest a very uninformed and backward view of how American politics and society actually works.
En Europe, il y a vraiment une manière un peu arriérée et surtout faussée sur la manière de comprendre comment fonctionne la politique aux États-Unis.
And because of that misperception, people assign nefarious motives, one to institutions like AIPAC, but also don't fundamentally understand that it is American society with whom these ideas are overwhelmingly popular that support a strong U.S.-Israel relationship and believe it's in America's interest.
Et du coup, ça fausse la vision qu'il y a sur des lobbies comme AIPAC, alors qu'encore une fois, elle repose sur le soutien inconditionnel d'une grande majorité de l'opinion publique américaine pour cette relation particulière de soutien à Israël.
Alors, conclusion provisoire, on continue demain. Vous avez compris que c'était un sujet évidemment névralgique, central et important. Conclusion provisoire avec Ibrahim Ward que nous rencontrons à Boston, qui est un chercheur enseignant à Harvard et spécialiste en économie et qui est un lecteur très attentif du livre de Mersheimer et Walt.
Je crois que le livre de Walt et Mersheimer est un excellent livre et je suis en gros d'accord avec leur analyse qui dit que le système politique américain est sous l'influence de ce lobby et que cette influence est préjudiciable à la politique américaine. Donc si l'on en juge, forcément c'est un jugement subjectif, mais je crois que si l'on en juge par l'impopularité des États-Unis dans le monde au cours des années Bush en partie à cause de ce soutien inconditionnel à Israël. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Et je crois qu'effectivement, il y a l'EPAC et d'autres groupes du même type qui exercent une influence énorme sur le système politique américain.
Une chose étonnante, choquante dans leur livre, c'est qu'ils expliquent comment l'un des lobbies le plus puissant, le lobby pro-israélien le plus puissant, c'est-à-dire l'EPAC, rédige les lois, ensuite, eh bien, le Congrès n'a plus qu'à approuver.
Oui, c'est l'un des rôles nouveaux des lobbies. C'est-à-dire que les lobbies, souvent, fournissent les informations aux législateurs américains. Et dans le cas de l'EPAC, ils vont plus loin encore, où ils rédigent souvent les lois. Et il y a une formule intéressante, que ceux qui écrivent les chèques sont ceux qui écrivent les lois. Une allusion au rôle de l'argent en politique aux États-Unis, où souvent les lobbies les plus influents sont si bien organisés qu'ils sont en mesure de rédiger la législation que le Congrès n'a plus qu'à approuver et à voter pour ou contre. Donc, dans le cas de l'EPAC, le lobby est tellement bien organisé qu'ils ont souvent réussi à imposer les lois qu'ils voulaient. Cela dit, il faut aussi noter qu'il y a un contre-lobby qui représente un autre versant de la position des Juifs américains, qui est de soutien à l'État d'Israël, mais l'opposition aux implantations, à la politique du gouvernement israélien face à Gaza et à la Cisjordanie. Il faut reconnaître le fait qu'il y a en fait en ce moment deux grands lobbies, le plus important restant l'EPAC, mais il y a même au moins une tentative de détrôner l'EPAC et de le remplacer.
Ce lobby s'appelle J Street.
Voilà, c'est le J Street.
Et il en sera question évidemment dans les numéros à venir. C'était un reportage avec Guy Van Til. Merci à tous. Merci à Agnès Lebotte pour le montage. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission La Basse, j'y suis. Éric Morin et Michel Bizikian étaient à la technique aujourd'hui. Coyenne Guyenne et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry. Et le numéro du répondeur, je vous le rappelle, est le 01 56 40 37 37 réclame.